citoyen qui est de ce monde. Le fils de terre et fille qui les féconde. La terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein. Ni de fourmis, hein, ni plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'uni, 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 l'univers. Est beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, l'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, émission de sortir du nucléaire Dromardèche. Aujourd'hui, nous avons rencontré, parce qu'on l'a fait hier pendant la manifestation du 1er mai, Gilles Reynaud, qui m'appartient et est un des créateurs du site Ma Zone Contrôlée Va Mal. Mais avant cela, avant d'attaquer notre... Je suis en train de m'amuser parce que je vois les techniciens qui discutent. Je vais lire le billet de Georges qui, malheureusement, est absent. Il a un petit problème de circulation. Donc, c'est moi qui vais faire Georges aujourd'hui et donc le spécialiste de Fukushima. Alors, comme dit Georges d'habitude, chers auditeurs et auditrices, un programme chargé pour ce billet de mai. À l'occasion du 30e anniversaire de Tchernobyl et du 5e anniversaire de Fukushima, une conférence événementielle rassemblant plus de 30 intervenants et intervenantes a eu lieu le samedi 23 avril 2016, de 9h à minuit, à la mairie du 2e arrondissement à Paris. Elle a eu lieu en présence de Gérard Bournet, Roland Desbordes, de la CRIRAD qu'on connaît bien à Valence, Colline Kobayashi, Thierry Ribaud, Cécile Assanouma-Brice, que nous connaissons bien dans cette émission car on fait souvent appel à sa compétence, Haruko Sagaguchi et Michel Rivasi, tout aussi connu dans la Drôme. Toutes les interventions des participants ont été enregistrées et sont donc diffusées sur YouTube. Il suffit de taper « Table ronde sur Fukushima » sur YouTube. De Cécile Assanouma-Brice, justement, un petit message. À Kumamoto, préfecture du sud du Japon, secouée par des séismes importants depuis quelques jours, le gouvernement japonais joue un bras de fer bien risqué avec les éléments naturels et ceux qui le sont moins. Le choix de maintenir en activité la centrale nucléaire de Sendai, composée de deux réacteurs, la seule qui est redémarrée depuis août 2015, est à 140 km de là, génère la colère des Japonais. La centrale de Sendai, bien que construite en 1984, aurait été remise aux normes après le drame nucléaire de Tohoku. L'enjeu pour le gouvernement japonais serait de montrer que les nouvelles normes sont viables et permettent de résister aux plus forts séismes, redonnant ainsi un élan à la politique de redémarrage des centrales nucléaires qui rencontrent une forte opposition dans le pays. La région de la préfecture de Kumamoto a subi non moins de 410 secousses sismiques du 14 au 16 avril 2016. Avec des magnitudes allant de 6,5 à 7,3 sur l'échelle de Richter. Or, Sendai, située à proximité de ces zones de faille, voit ses réacteurs dotés d'un système d'arrêt automatique pour des mouvements d'intensité allant de 80 à 260 gales. Le gal étant une unité spéciale employée en géodésie et en géophysique pour exprimer l'accélération due à la pesanteur terrestre. Soit un séisme dont la magnitude serait supérieure à 8,1. Chiffres en deçà desquels la centrale ne serait pas mise en péril. Le 18 avril, la Commission de sécurité nucléaire japonaise a tenu une conférence de presse durant laquelle ses membres ont réitéré ce point de vue. Aucune raison d'arrêter la centrale maintenant. Cette position est une façon bien étrange de considérer le principe de précaution. Alors qu'il devait être question de la suite, du possible, des éventualités à venir, les experts interrogés ne s'expriment que dans le présent. Autrement dit, la commission de sécurité nucléaire japonaise ne prendra la décision d'arrêter la centrale de Sendai que lorsque la catastrophe sera là. Ne prendre en considération que l'unique facteur du séisme, c'est faire fi d'un possible risque de tsunami qui ne peut être anticipé par aucun spécialiste. D'autant que notre connaissance de l'intensité des mouvements tectoniques et de leurs conséquences est bien superficielle si l'on en croit les expériences passées. Nous n'avons encore jamais, et ce nulle part dans le monde, réussi à appréhender un tremblement de terre, c'est-à-dire à le pronostiquer et à s'y préparer. En outre, il y a plus de 2000 failles actives au Japon et le risque d'un très grand séisme peut se produire à tout moment et sur la quasi-totalité du territoire. De plus, des motivations militaires guident cette recherche d'infaillibilité face aux tremblements de terre à travers cette expérience de relance d'une centrale nucléaire et cela, bien sûr, au détriment des populations. Enfin, petite information, la Maison de la Culture du Japon à Paris a invité récemment la cinéaste Mayu Nakamura à présenter Alone in Fukushima, documentaire consacré à Naoto Matsumara. Des extraits de son interview sont disponibles sur le site Fukushima Blog. Voilà pour le billet de Georges qui vient d'arriver, mais un peu trop tard. Et notre deuxième billet, vas-y.
Merci. Eh bien, justement, on pourrait imaginer qu'après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima Daiichi, les autorités internationales, européennes et nationales mettent en place des mesures pour protéger au mieux les populations victimes. Nous pouvons tous être concernés. Mais devant l'énormité des coûts, les États mettent en place un cadre juridique, une gestion dite optimisée, qui fait supporter aux victimes de la pollution la plus grande part des dommages économiques et sanitaires. Ainsi, les populations se trouvent contraintes à revenir dans des territoires contaminés par les centrales Fukushima Daiichi ou Tchernobyl. On appelle cela le développement durable en zone contaminée. Les habitants doivent réapprendre à vivre avec la radioactivité, mais en toute connaissance de cause, car les voici munis de radiamètres et de dosimètres high-tech. À eux de limiter leur temps d'exposition, de contrôler leur nourriture. Ils deviennent responsables de leur protection contre l'irradiation et potentiellement coupables au final s'ils tombent malades. « Ah, mais madame, vous avez laissé jouer votre enfant dans la cour sans vérifier son dosimètre. Mais monsieur, vos légumes n'étaient bons qu'à jeter, et vous le saviez. » Ainsi, les écoliers se promènent avec leur dosimètre autour du cou, comme des travailleurs du nucléaire. Et tout cela nous est présenté comme une mesure de protection. Et il faudrait dire merci, merci d'avoir élevé le seuil de référence qui détermine si on peut maintenir la population ou la déplacer. Il est passé à 20 millisieverts par an, soit 20 fois la limite qui définit le risque maximum acceptable hors situation accidentelle. Merci. Merci d'avoir fixé la distribution d'iode stable à 50 millisieverts par an, alors que l'OMS préconise 10 pour les enfants, les femmes enceintes et les mères qui allaitent. Non, non et non merci. Les leçons ont bien été tirées des catastrophes nucléaires, mais pas au bénéfice des populations. Le principe pollueur-payeur ne s'applique toujours pas à l'industrie nucléaire. Pire, ce sont les victimes, vous, moi, nos enfants, qui paieront.
Merci, Annie.
Pas très optimiste, mais la réalité.
Pas très optimiste, mais effectivement. À Dickengart maintenant.
Citoyens qui êtes de ce monde, fils de terre et fille qui les féconde, la terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein. Ni de fourmis, un nid plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'uni, 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 l'univers. Et beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, l'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand. Relatif est notre avenir, relatif à son désir, le désir du maître des êtres, qui peut-être va nous faire disparaître. Relatif est notre avenir, sa colère sera éphémère. Un petit saut d'humeur et la terre ne sera plus que vapeur. Par Jupiter, il se fâchera quand il s'apercevra qu'une petite sphère faite de terre et de mer va trop vite sur son orbite. Il nous fera disparaître. Il nous fera une pichenette. Moi j'aurais déjà disparu, je m'éclipserai dès demain. Je m'en vais dès demain sur mon char. Je me barre, dada, je vais loin dans la terre.
Et maintenant, notre entretien avec Gilles. Alors, nous sommes avec Gilles Reynaud, qui est un salarié du nucléaire, militant de la CGT, mais aussi, surtout, animateur d'un site, Ma Zone Contrôlée Va Mal, et qui travaille beaucoup avec les salariés contractuels intérimaires du nucléaire. Alors, on sort d'une grande grève qui a duré plus de 54 jours dans une entreprise sous-traitante, Nuvia, à Cruas. Et Gilles va nous parler un peu déjà des conditions de travail des salariés de Nuvia, quel travail ils faisaient, leur proximité avec les installations nucléaires et surtout leurs conditions de travail. Alors, Gilles, justement, ces conditions de travail des salariés de Nuvia, pourquoi une telle grève ?
Alors, les salariés de Nuvia ont fait une grève parce qu'ils dénonçaient une convention collective aujourd'hui qui n'est pas adaptée à leur métier. Ils sont sous le couvert de la convention collective Syntec, qui aujourd'hui est pour les métiers des ingénieurs et les bureaux d'études. Et nos collègues de Nuvia Support, qui sont sur Cruas, ne font pas ces métiers. Ils font de la logistique nucléaire. Alors, c'est le mot moderne, parce qu'avant, ça s'appelait la servitude nucléaire. Et les métiers consistent donc à faire de l'assainissement, de la décontamination, la gestion des déchets, le conditionnement, le traitement de des déchets, et puis faire de l'assistance sur des chantiers pour que les interventions se fassent bien, quoi.
Donc ce sont des salariés qui sont directement en contact avec l'énergie nucléaire et donc avec des risques d'accidents liés au nucléaire.
Alors complètement, ce sont les collègues qui travaillent en zone contrôlée, dans le bâtiment réacteur. Leur quotidien, c'est accéder en zone contrôlée et puis faire en sorte que les locaux soient propres radiologiquement pour que les autres corps de métier, mécaniciens, robinettiers, électriciens, puissent intervenir dans des espaces qui soient propres radiologiquement.
Oui, d'accord. Et est-ce que c'est un secteur où il y a beaucoup d'accidents du travail ? Est-ce qu'ils ont comment ils sont suivis ? Est-ce qu'il y a des comités d'hygiène sécurité ?
Alors, pour les copains de les collègues de Cruas, oui, il y a un suivi. Il y a le CHSCT de Cruas qui est vigilant sur leur situation. Ils travaillent donc en étroite collaboration avec le CHSCT d'EDF. Et des accidents, il y en a malheureusement. Alors aujourd'hui, dans nos entreprises de la sous-traitance, il y a une politique qui est de ne pas déclarer les accidents du travail. On propose des postes aménagés aux personnes pour éviter qu'elles déclarent l'accident du travail, puisque derrière, ça a un coût assez important pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, on propose à quelqu'un qui se fait mal un poste aménagé, et donc il n'y a pas de déclaration d'accident du travail qui est faite à la CPAM.
Voilà. Alors dans cette entreprise-là, il y a combien de salariés sur Cruas ? Parce que je vois qu'il y a eu un autre secteur qui était en grève en Haute-Normandie à peu près à la même époque. Sur Cruas, ils sont combien dans ces entreprises Nuvia ?
Alors sur Cruas, je crois bien que c'est un effectif de plus de 100 personnes, 100, 130 grand maximum. Et donc sur Penly, je voudrais pas dire de bêtises, ça va être équivalent. Pour les mêmes types d'activités, hein, que ce soit à Cruas ou à Penly, c'est de la logistique, hein, comme je t'expliquais. Mmh. Et donc, ils étaient aussi solidaires des copains de Cruas, quoi.
Donc Nuvia, c'est le groupe Vinci, hein, donc ça, ce sont les gros groupes, tout ça, ce sont des métiers qui devraient en principe être à EDF et pas dans les entreprises sous-traitantes. Est-ce que cette entreprise Nuvia sous-traite aussi elle, dans d'autres secteurs pour certains des emplois?
Alors l'entreprise Nuvia, je pense que oui, parce que ce que nous voyons aujourd'hui émerger, c'est les PGAC, les prestations globales d'activité de chantier, où aujourd'hui l'exploitant nucléaire, EDF en l'occurrence, n'a qu'un seul interlocuteur pour un type de contrat, sauf qu'on autorise ce détenteur du contrat à sous-traiter à d'autres entreprises. Donc on a eu le cas là récemment sur le site du Tricastin, où l'entreprise Polynor Sud a perdu le marché, son activité. Ça faisait plus de 20 ans qu'elle était en place, au détriment de l'entreprise Techman, donc c'est le groupe Honnête, qui était 30% moins cher. Et donc là, les copains, les collègues de Polynor Sud perdaient un minima entre 300 à 600 euros mensuels sur leur salaire. Donc certains ont accepté la passation de passer chez Techman, d'autres ont refusé et se retrouvent sur d'autres sites nucléaires. Et donc oui, il y a des montages économiques avec cette PGAC où l'exploitant n'a qu'un seul interlocuteur, mais le détenteur du contrat, donc, lui, peut sous-traiter à d'autres personnes. Et à chaque fois, il fait évidemment une marge, et tout ça, ça se répercute sur des conditions de travail, à la in fine. Hein, c'est...
Oui, et puis des salariés qui ne se connaissent pas obligatoirement, du coup, puisqu'ils n'appartiennent pas vraiment à la même entreprise, et donc une perte de connaissances, quoi, dans un secteur qui est quand même essentiel.
Alors oui, ça favorise, on va dire, c'est la mise en concurrence, on casse les collectifs de travail. Et donc, à partir de là aussi, c'est dans une industrie comme la nôtre, où un binôme, la sûreté, la sécurité, ce sont nos maîtres mots, ce sont des choses que nous devons au quotidien être vigilants. Et eh bien on se rend compte qu'en cassant le collectif de travail, en montant les gens les uns contre les autres, on fait une concurrence déloyale et tout ça, ça se fait au détriment de la sécurité et de la sûreté.
Alors est-ce que c'est un métier qui est particulièrement masculin là, ou est-ce qu'on trouve aussi des femmes qui y travaillent?
Alors c'est physique. Alors oui, on a pas mal d'hommes, mais ça se féminise parce qu'aujourd'hui, dans les activités de logistique, il y a l'activité de la DI-82, qui est donc un contrôle radiologique de tout le matériel qui sort de zone de zone et qui reste ou sur le site ou qui peut même prendre la route. Donc là, on a beaucoup de personnel féminin qui font de la gestion d'accès en zone contrôlée, gestion de vestiaire. Des métiers de blanchisseuse, des métiers de DI-82, donc au contrôle radiologique de matériel. Et c'est vrai que ça apporte un petit plus parce que les femmes sont beaucoup plus rigoureuses, je dirais, pour ce type d'activité que des fois des hommes. Et puis, quand il y a, comment dire, un petit différent entre un homme et une femme, souvent la femme arrive à faire comprendre que c'est son métier, quoi, elle connaît son affaire.
C'est très bien. Et... Bon, j'imagine que chacun d'entre eux sont équipés de dosimètres. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de gens qui avaient dépassé la dose et qui auraient eu des problèmes après avec leur contrat de travail, ou même qui auraient dépassé la dose? Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Alors aujourd'hui, il faut savoir que donc, dans le nucléaire, nous travaillons avec des régimes de travail, RTR, régime de travail radiologique. Donc pour l'activité sur laquelle nous sommes affectés, il y a un prévisionnel dosimétrique qui est donc établi. Et à chaque fois qu'on va rentrer en zone contrôlée et que nous allons activer notre dosimètre électronique, il va intégrer cette dose limite et on a des seuils d'alarme. Donc si on s'approche un petit peu trop de cette dose, l'alarme va se déclencher. Et là, la consigne pour le salarié, c'est de se retirer et d'aller voir sa hiérarchie, ses responsables, pour dire « je vais peut-être faire un dépassement de dose ». Et donc on voit ce qui s'est passé, quoi.
D'accord. Et le suivi médical, est-ce que c'est le même que ceux des agents d'EDF, ou est-ce que c'est un suivi médical différent, comme on le voit souvent dans d'autres entreprises de la sous-traitance, qui ne sont pas comptabilisés parmi le personnel de l'entreprise donneuse d'ordre, quoi?
Eh bien, c'est exactement le cas. Donc aujourd'hui, nous, nos médecins du travail sont à l'extérieur des sites. Ils ne sont pas directement sur un site EDF, Areva ou CEA. Ils sont à l'extérieur et ce sont ce que l'on appelle des CIST, des comités inter-entreprises de santé au travail. Donc ils sont financés par nos patrons. Donc en règle générale, ils vont nous sensibiliser à chaque visite médicale sur les addictions. cannabis, alcool, mais quand on leur parle le problème de amiante, quand on fait du démantèlement, quand on parle de rayonnement ionisant, quand on parle de rayonnement neutronique, de produits chimiques, de CMR, on voit bien que ça les embête.
En principe, le tiers du temps du médecin du travail, c'est de visiter les postes de travail. Ces médecins de cabinet extérieur, est-ce qu'ils ont le droit de rentrer dans la zone contrôlée, eux ?
Alors bien sûr, ils ont toute l'autorité pour venir, sauf que même ils n'auraient pas le temps pour le faire. Ils gèrent beaucoup de salariés sur un même site et donc de différents corps de métier. Et donc c'est compliqué, je dirais, pour eux de venir. Un bâtiment réacteur, quand on l'arrête, on ne peut pas accéder avant. Quoi. Mmh. Un arrêt de tranche débute en règle générale le vendredi soir aux alentours de 23h. Les premiers qui rentrent dans le bâtiment réacteur, c'est sur le coup de 4h, 5h du matin. Mais on ne peut pas faire de visite préalable à l'ouverture du chantier.
D'accord. Et il y a des gens qui ont... Quand une personne a dépassé ou s'approche de la limite de dose, il fait un autre emploi ou alors il est de fait mis en attente sans être payé?
Ah non, non. La personne va être mise, on va dire, au vert, entre guillemets, où on va réévaluer sa dosimétrie sur les 12 mois glissants. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la dosimétrie sur les 12 mois glissants, c'est 20 millisieverts à l'année. Mm-hmm. Dans nos entreprises, beaucoup ont baissé ce seuil à 14, voire 16 millisieverts. Donc après, c'est en fonction aussi de la classification du salarié, où il est catégorie A, donc c'est 20 millisieverts maxi, ou catégorie B, c'est 6 millisieverts maxi. Tous les travailleurs précaires, CDD ou intérimaires, eux, c'est 6 millisieverts aussi. Ils n'ont pas le droit d'accéder en zone orange. Et donc, en fonction des activités, il y a des endroits où les CDD sont interdits catégoriquement, quoi.
D'accord, ça c'est plutôt rassurant quand même, d'une certaine façon. Mais alors on le voit, bon, cette sous-traitance, elle est importante sur Cruas. Il y a combien de sous-traitants à peu près, notamment lors d'un arrêt de tranche ?
Ou un arrêt de tranche, ça mobilise jusqu'à 1500 personnes. Et je dirais qu'il y a 1100, 1200 salariés d'entreprise extérieure.
D'accord. Bon, ça nous donne un peu une petite image tout ça. On va, juste après la pause musicale, on va parler de ces 54 jours de grève et pourquoi une grève aussi longue et finalement quels ont été les résultats de cette grève.
Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Avec Gilles Reynaud qui suit les chantiers, notamment le chantier de Nuvia qui était en grève. Alors 54 jours de grève, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une grève si longue?
Alors une grève si longue, ça a commencé lors des NAO, négociations annuelles obligatoires. Nos collègues avaient fait des revendications salariales pour l'ensemble des salariés de Nuvia. Et puis à la première réunion, la direction de Nuvia a été obtuse et n'a pas voulu écouter. Donc il y a eu des assemblées générales qui ont été faites par les salariés, les délégués du personnel, et puis les salariés ont décidé donc de rentrer en conflit, grève. Et donc c'est monté crescendo, hein, puisque oui, comme tu l'as dit, c'est jusqu'à 54 jours, donc c'est historique, hein, au niveau national, un conflit qui dure aussi longtemps. Le site de Cruas a cette réputation, belle réputation, je dirais, d'être un site où les syndicats des donneurs d'ordre, la CGT en particulier, soutiennent vraiment les entreprises extérieures, les salariés des entreprises extérieures. Donc ils ont été soutenus pendant ces 4 jours par les syndicats, la commune de Cruas aussi, qui a mis à disposition la mairie, tout simplement, et qui était présente pour faire la logistique avec eux de tables, de chaises, pour les aider dans leur blocus.
Alors, EDF annonce dans tous ses documents annuels qu'ils ont imposé maintenant aux entreprises sous-traitantes une sorte de charte sociale, notamment. Comment a réagi EDF par rapport à un conflit qui s'est éternisé? En principe, ça ne respectait plus la charte d'EDF.
Alors, cette charte d'EDF, là, donc, ça, c'est exactement le cahier des charges sociales. Alors, ça a été établi par l'ancien gouvernement, juste après Fukushima, où on a fait des évaluations complémentaires de sûreté sur les installations. Et puis derrière, les politiques, certaines organisations syndicales ont travaillé sur l'élaboration d'un cahier des charges sociales. Donc nous l'avons contesté dès le début, parce que il ne permet en fait qu'à une entreprise qui perd un contrat, pour celle qui revient, de cadrer la reprise du personnel, sans vraiment de réelle avancée sociale pour les salariés. C'est le cas, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Pierre Latte, hein, où les salariés de Polynor Sud, qui étaient convention collective métallurgie, sont passés à la convention collective Syntec de chez Techman, et qui perdent entre 300 et 600 euros. Donc tout ça, c'est pas acceptable.
Oui, mais bon, ça, à la limite, EDF dit, bon, c'est l'entreprise qui doit gérer, c'est pas nous, etc. Mais quand le conflit s'éternise, EDF, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait remplacer les salariés par d'autres, ils ont fait le travail eux-mêmes. Comment ça s'est passé pendant ces 54 jours?
Alors, ils ont surtout fait intervenir d'entreprises sous-traitantes. Donc, on a fait appel à des primos intervenants. Et ça, voilà, c'est dangereux, quoi, pour l'activité. Les agents EDF ont participé, ont re-essayé de se réapproprier les métiers, puisqu'aujourd'hui, depuis les années 90, on sous-traite à tour de bras, hein, plus de 80% des activités aujourd'hui sont sous-traitées, et les agents EDF ne sont là que pour faire de la surveillance des entreprises extérieures. Donc c'est surtout des salariés précaires qui sont intervenus pendant ces journées de conflit, quoi.
Des salariés qui ne connaissaient pas le site obligatoirement, ou en tout cas pas régulièrement, et qui risquaient donc de faire quelques erreurs.
Tout à fait, des primos intervenants, hein, donc c'est des gens qui ont été habilités, formés en 15 jours, hein, par des organismes de formation, et qui derrière on demande d'être opérationnels de suite, quoi. Il faut pouvoir intervenir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ces personnes n'étaient pas censées travailler en zone orange. Donc bon, maintenant, on va mener des investigations pour savoir s'il n'y a pas eu des événements significatifs en radioprotection. Si certains de ces salariés, dans la mesure où ils sont précaires, et donc cette perversité dans la précarité fait que on peut être soumis au chantage à l'emploi.
Oui, c'est ça. Alors, il y a un risque pour eux, parce que ne connaissant pas très bien ni le site, ils connaissent le métier, j'imagine, mais ne connaissant pas très bien le site, etc., il y a un risque d'accident. Mais il y a aussi un risque d'accident pour l'ensemble de la population. Si on comprend bien, un conflit aussi long, maltraité et remplacé par des salariés primo-intervenants, c'est un vrai risque pour tout le monde.
Complètement. Aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, on a tendance à banaliser un petit peu ces activités, ces métiers de logistique, hein, qui font partie intégrante des cœurs de métier du nucléaire. Et oui, si on fait intervenir quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui ne connaît pas les installations, oui, il va prendre des risques lui-même et va en faire courir aux autres. Ça, c'est inévitable.
Alors, bon, là, les salariés étaient en grève pour leur nouvelle convention collective, 54 jours. Le résultat de la grève, ils ont gagné, il y a eu un compromis de passé. Quels sont les résultats, quoi, en gros?
Alors, ben, les résultats, alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais ce que nous savons, c'est que nos collègues ont obtenu quand même de bonnes avancées pour, en termes d'augmentation, par exemple, sur salariale. Qu'il y a eu beaucoup de travailleurs qui étaient précaires à l'époque et qui ont été embauchés en CDI. Que ça concernait tout le monde, hein, même les non-grévistes, donc qui étaient eux sur les sites à travailler, vont profiter de ce conflit pour toucher des augmentations de salaire et de primes.
Oui, ça c'est souvent le cas, mais ça fait partie des conflits sociaux en France. Où ceux qui se battent gagnent pour tout le monde, même pour ceux qui se sont pas battus. Ça c'est un truc connu, et pas que dans le nucléaire. Concrètement, là par contre, bon, donc manifestement des gains par rapport à eux, mais ce qui voulait dire que dans les salariés de Nuvia, il y avait des gens qui étaient même pas tous en CDI. Alors, il y a des gens qui interviennent dans la zone nucléaire qui sont pas tous en CDI.
Ben oui, c'est la particularité des arrêts de tranche où il y a un pic, comment dire, important d'activité. Alors, il faut avoir des ressources en personnel pour pouvoir organiser correctement ces activités. Et donc oui, les arrêts de tranche sont des facteurs où on fait appel à beaucoup d'intérimaires, beaucoup de travailleurs en CDD. Les travailleurs en CDI, eux, sont des gens qui sont là aussi sur le tranche en marche. L'année, toute l'année, ils sont présents sur le site et quand il y a l'arrêt tranche, ils interviennent. Mais pour les arrêts tranches, oui, il y a un surplus d'activité, donc il faut du personnel.
Oui, enfin, pour quelqu'un d'extérieur comme moi, ça veut dire que EDF sous-traite dans ces métiers-là parce que justement il y a des périodes de pointe et donc ils font appel à des entreprises sous-traitantes, mais ces mêmes entreprises sous-traitantes sont confrontées aux mêmes problèmes et donc sont obligées elles également à prendre du personnel supplémentaire à des moments particuliers, quoi.
C'est ça, voilà. C'est une charge supplémentaire lors des arrêts de tranche. EDF en est bien conscient. Et les entreprises extérieures ben, jouent aussi un petit peu là-dessus pour ben, prendre le strict minimum et puis avec cette précarité, pouvoir faire de la pression sur les salariés. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. L'association Ma Zone Contrôlée, dont je suis le président, nous le dénonçons haut parce que la précarité dans le nucléaire devrait être interdite. On devrait pouvoir fidéliser les salariés, que l'on fasse des arrêts de tranche, que l'on fasse du démantèlement. Ce sont des métiers et qui demandent une reconnaissance parce qu'on ne peut pas le banaliser.
Oui, en fait, si je comprends bien, votre revendication, c'est qu'il y a une seule entreprise, EDF, qui gère l'ensemble de ces métiers-là et plus de toute sous-traitance, quoi.
Alors, pas que EDF, parce que donc il y a tous les exploitants nucléaires, hein, EDF, Areva et CEA. Areva. EDF aujourd'hui a de gros enjeux avec le grand carénage. Areva et le CEA ont de gros enjeux aussi avec des vieilles installations qu'il faut démanteler. Mais tout ça, il faut qu'on le fasse dans les règles. L'ASN surveille, le gendarme du nucléaire surveille ces types d'interventions. Et nous espérons bien que dans le futur proche, là, nous aurons la possibilité d'être entendus pour qu'on mette un terme à ce dumping social qui aujourd'hui, pour nous, est synonyme de nucléaire low cost.
Alors, une petite dernière question. C'est l'entreprise Nuvia, plus d'une centaine de salariés qui étaient sur Cruas. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises sous-traitantes qui font d'autres métiers sur Cruas?
Alors oui, il y a d'autres entreprises, société Auris, par exemple, qui fait de la chaudronnerie, de la robinetterie. On a, il y a plusieurs, je crois que ça représente à peu près 500 à 800 entreprises qui interviennent au quotidien au niveau du parc nucléaire, quoi.
Oui, donc ça va être très difficile à gérer pour EDF, pour assurer un contrôle. En tout cas, ça, c'est une évidence. Oui. Également, ces salariés-là, Cruas, c'est quand même maintenant une centrale, ce sont quatre réacteurs un peu vieillissants, puisqu'ils ont dépassé les 30 ans d'existence. Est-ce que vous voyez dans votre métier est-ce que cet âge a des conséquences sur le matériel sur lequel vous travaillez? C'est-à-dire que est-ce que vous sentez-vous que c'est un matériel vieillissant ou pas?
Évidemment, le matériel vieillit, mais nous, ce que nous voulons pointer du doigt, c'est les hommes qui travaillent sur ces installations. C'est nous qui sommes les garants au quotidien de la sécurité, de la sûreté des installations. À force de mépriser les salariés, nous allons avoir une grosse déconvenue. Donc faire le grand carénage, vouloir prolonger la durée de vie des réacteurs, oui, pourquoi pas, en changeant le matériel, mais il faut faire le grand carénage social pour les travailleurs du nucléaire.
Très rapidement maintenant, Ma Zone Contrôlée Va Mal existe depuis quelques années, 6 ans. Vous allez continuer, j'imagine.
Oui, bien sûr, nous allons continuer, puis essayer d'interpeller au plus haut niveau, national comme international, les politiques, les décideurs sur cette situation dans le pays le plus nucléarisé du monde.
Ben écoute, je te remercie beaucoup. C'est bien qu'on ait des salariés du nucléaire qui viennent sur Atomic Mac. On a peut-être pas toujours une entente sur la finalité du nucléaire, mais on a au moins un point d'accord, c'est le fait que aujourd'hui la sous-traitance et l'abandon du service public, c'est un danger pour et les salariés et la population.
Complètement. Et nous voulons remettre les hommes au cœur du débat, car c'est bien eux aujourd'hui qui sont le plus important.
Je te remercie beaucoup. Bonne journée.
Et on profite, puisqu'il a parlé, et on a parlé à la fin de Ma Zone Contrôlée, alors qu'il s'appelait Ma Zone Contrôlée va mal, il s'appelle maintenant Ma Zone Contrôlée. Vous pouvez aller sur ce site internet et vous aurez les informations sur l'ensemble de la sous-traitance, sur l'ensemble des sites nucléaires français. Donc une publicité, une page de publicité pour Ma Zone Contrôlée. Voilà. Et bien maintenant, notre billet des intox.
Et bien voilà, moi je vais faire sur les derniers documentaires, enfin les documentaires choisis par Arte pour nous parler de Tchernobyl. En 2010, déjà, Arte avait diffusé le documentaire Tchernobyl, une histoire naturelle, d'Antoine Bamas et Luc Riolo. Dans ce documentaire, on voyait la zone interdite, peuplée d'animaux, dont des espèces rares, dans une végétation luxuriante. Cette enquête laissait entendre que c'était presque mieux pour les animaux après l'accident nucléaire, du fait du départ de l'homme. La radioactivité ne semblait pas gêner la vie. Des séquences de ce film n'ont pas été tournées dans la zone interdite, mais en Allemagne ou dans d'autres régions d'Ukraine. Les touristes qui ont vu le documentaire sont très déçus de ne pas voir tous ces animaux sauvages en arrivant à Tchernobyl. Ils peuvent par contre voir quelques animaux dans le zoo créé par les responsables du tourisme. C'est Anders Moller et Galia Ackermann qui donnent ces informations dans Culture Science sur France Culture du 22 avril 2016. Anders Moller est chercheur au CNRS et mène les études sur les conséquences écologiques de l'accident de Tchernobyl. Il va sur place depuis 25 ans. Galia Ackermann est historienne, journaliste et traductrice franco-russe. Spécialiste du monde russe, elle va sur place depuis 18 ans.
Mais alors, quelle est la motivation de ce documentaire et pourquoi Arte n'a-t-il pas vérifié la provenance de ces images?
C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très dangereux de présenter Tchernobyl ainsi. C'est comme une carte postale, alors que les hommes, les animaux, la végétation sont fortement impactés par la radioactivité. Et puis ça, on recommence, parce que pour les 30 ans de Tchernobyl, Arte a présenté le documentaire « Tchernobyl, Fukushima, vivre avec » d'Olivier Julien. Le réalisateur a voulu donner la parole aux populations qui vivent dans les zones contaminées. Il a interviewé les habitants d'Olmani, village situé à 250 km à l'ouest de Tchernobyl. Les habitants parlent de leur désespoir absolu de 86 à 96, puis de la reprise en main de leur vie à partir de 96, quand les Français membres du programme européen ETHOS ont donné des instruments de mesure pour que la population puisse localiser elle-même la radioactivité et cartographier ainsi les lieux, puisque la radioactivité n'est pas uniforme et empoisonne de façon disparate les sols. Un médecin de la zone contaminée nous assure qu'il n'y a pas plus de taux de cancer que dans les zones non contaminées de Biélorussie. Le réalisateur fait parler la population, les experts, les médecins, de la contamination externe et interne, mais ne s'intéresse pas au fait que la radioactivité casse l'ADN. Si la réparation ne se fait pas, il peut y avoir transmission aux générations futures. Que nous disent les études? Les études sur les petites souris qui ont un ADN assez proche de l'homme montrent sur plusieurs générations l'augmentation de la fréquence des tumeurs, des cataractes, une diminution de la taille et de la taille du cerveau. Quant aux nombreuses études et observations menées par les médecins russes, ukrainiens et biélorusses, elles sont ignorées. Ces études relèvent que 80% des enfants des zones contaminées ne sont pas en bonne santé. L'instabilité génomique est peut-être à l'origine de l'affaiblissement général de plus en plus fort des nouvelles générations.
Alors si on comprend bien, Arte souhaite nous préparer à vivre avec une future catastrophe nucléaire.
Eh oui, tout est prêt. Jacques Lochard, qui explique dans le documentaire son intervention auprès de la population de Dolmanie, a transféré vers la France l'expérience accumulée dans les territoires contaminés. Il coordonne une réflexion sur comment vivre dans un environnement contaminé par l'industrie nucléaire. Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Eh bien, je te remercie, Jeanne. Et puis, bah, nous allons passer à notre agenda.
Oui, comme chaque mois, on termine l'émission avec l'agenda du mois de mai. Alors, quelques petits événements en mois de mai. Je vous parlerai également d'événements un peu plus lointains. Les 14 et 15 mai se tiendra la foire de Nyons, au cours de laquelle vous pourrez rencontrer des artisans et des associations voilà, qui travaillent sur les thèmes de l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, les habitats sains, les transports alternatifs, la solidarité internationale et bien d'autres. Vous pourrez nous rencontrer l'association Stop Nucléaire Drôme-Ardèche sur cette foire, puisque nous aurons un stand et donc nous serions heureux de vous y rencontrer. Événement suivant, enfin rendez-vous suivant, le 23 mai, comme chaque mois, notre réunion mensuelle donc de l'association Stop Nucléaire Drôme-Ardèche. Donc je ne sais pas si le lieu sera à la Frapna ou à la Maison des Sociétés.
Ce sera à la Frapna.
À la Frapna. Donc voilà, comme ça c'est clair. Et enfin pour ce mois de mai, donc toujours le rendez-vous du samedi matin à 11h, place Porte-Neuve à Valence. Donc vous pourrez trouver diverses infos sur le nucléaire de notre région ainsi que sur les transports de matières radioactives également de notre région. Et puis vous aurez l'occasion, si vous allez traîner vos petits pieds dans ce coin le samedi matin à Valence, d'échanger avec les obstinés qui tiennent le pavé depuis maintenant plusieurs années.
Quel que soit le temps.
Quel que soit le temps. Voilà, ensuite on voulait parler d'événements un peu plus lointains. Donc pour votre information, l'association Stop Nucléaire Drôme-Ardèche a quitté le réseau Sortir du Nucléaire cette année et souhaite trouver avec d'autres groupes de la France entière une autre organisation et début juin vers Paris, ce sera à Paris probablement, se tiendra une réunion des groupes qui souhaitent se fédérer dans une autre structure. Donc voilà, si il y a parmi les auditeurs des gens membres d'associations qui souhaitent participer à cet élan, ils sont les bienvenus et on les invite à se rapprocher de nous. Et pour finir, je vais vous parler d'un événement qui va se tenir au mois d'octobre, donc c'est pas pour tout de suite, mais il faut s'y préparer. Il y aura une grande manifestation pour s'opposer à l'EPR de Flamanville, donc qui se tiendra à Flamanville, donc voilà pourquoi il faut s'organiser, c'est un peu loin, mais ça sera l'occasion de marquer notre désaccord sur ce projet. Voilà.
Eh bien, merci Céline pour toutes ces informations. Je vous rappelle le numéro de notre répondeur avec appel gratuit, le 08 05 69 67 58. Vous trouverez cette information sur le site de Stop Nucléaire Drôme-Ardèche. Notre équipe d'aujourd'hui, eh bien, il y avait Annie, il y avait Georges, arrivé en retard, mais on l'a remplacé, mais il est là. Oui, Dominique, là. Céline et Jean-Pierre à la technique. Et je vous rappelle la date de notre prochaine émission d'Atomic Mind, le 6 juin 2016. Et maintenant, place à Richard et on vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.
Coming longer than it all night long, yeah. Baby, it's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. Will you see me in misery? Come over, baby, see my feet. No, no, no. Baby, it's all right. Oh, it's all right now. Hey, 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 yeah, yeah. She got a red diamond ring. She knows how to shake that thing, nah, nah. Yeah, she's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. Can you play one time for me, son? That's what I'm talking about now. Roller, baby. Dress on. She can burn Lana all night long. Oh, it's all right. Oh, it's all right. Hey, 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 yeah. I'm gonna tell you
don't do